Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vous savez, il faut du speed. Hein. Et si je le bats, je vais récupérer les images.
Paesi di Scacchi. La Corse joue à travers son histoire une interminable partie d'échecs. Bon coup, mauvais coup, coup intéressant, coup douteux et même nouveauté théorique. Les luttes politiques en Corse ont connu leurs grands maîtres et elles se jouent parfois à l'aveugle, souvent dans des positions incertaines. Depuis toujours, le destin de l'île se dispute sur le plateau politique. On est ici tellement rompu à l'art de la politique que l'enjeu de la partie n'est plus de respecter les règles d'opposition, mais d'en trouver les exceptions. Et on recommence l'analyse après chaque coup. En Corse, comme sur un jeu d'échecs, pour reprendre cette image de Mikhaïl Gorbatchev, les cases blanches de la prospérité jouxtent les cases noires du malheur. Retour à Bastia, pendant une partie d'échecs en blitz. Celui qui essaye de prendre une tour avec sa paire de fous s'appelle Léo Battesti. De ces érudits que l'on rencontre sur la route, par Estrada. Une road story qui s'écoute entre la stratégie et la tactique.
Asa che le filmato, dunque vuole montarsi a Zeghen dicendo voglio pagare da bei e qui a delirla da mostrare e via. Ma l'igno che sicuro la gioco conosciuto gioco così non è mica troppo ingrandato da tanto. Ma
se io do 5 minuti per chacun per giocare la posizione, ça fait 40 minuti per le due. Se vous jouez en 5 minuti, ça va pas le faire. Ok? Donc on réfléchit, on calcule quand même. Allez.
Alors on est là à Gaza d'Iscac, la maison des échecs, qui est un lieu emblématique de la Ligue Corse des échecs. C'est au cœur de Bastia et il est fréquenté par des centaines d'enfants. Il y a une vingtaine de cours hebdomadaires. En amont, nous avons des milliers d'enfants qui apprennent les échecs dans le temps scolaire. C'est unique d'ailleurs. Hein. On a formé 45 000 jeunes Corses sur une population de 320 000 habitants. C'est comme si en France, il y avait pratiquement 10 millions de personnes qui avaient été formées aux échecs, pour donner un ordre d'idée.
Derrière trois alignements de plateau, une vingtaine d'enfants suit les leçons d'un professeur.
Je m'appelle Marc-André Amoriz.
Marc-André n'a pas 12 ans. C'est un joueur offensif.
J'ai 11 ans et demi. J'ai 2270 au classement.
Il est un champion de sa catégorie.
Champion de Corse et champion d'Europe.
Un champion international.
C'est pour les gens offensifs, il y a la Sicilienne. Il joue ça. Là, c'est offensif. Ouais, je préfère attaquer ou défendre. Parce qu'en fait, le but aux échecs, c'est de... Si on peut, dès le début, mettre comme ça tout au centre, c'est bien. Donc on fait ça. pour empêcher qu'il se mette au centre, parce que s'il se met au centre, on le mange. Je suis allé en Allemagne et en Lituanie. En août, le championnat du monde des jeunes. Et en juillet, le championnat d'Europe par équipe.
Nous faisons chaque année plus de 500 tournois, dont 7 événements internationaux majeurs, qui sont parmi les plus importants au niveau mondial. On avait organisé un match contre Garry Kasparov, la légende hein, que le monde entier connaît, qui était venu jouer contre l'équipe corse. Bon, je ne donnerai pas le résultat. Il avait joué en simultané contre nos 5 meilleurs joueurs, bon, qui se sont bien défendus quand même. Voilà. On a fait venir des légendes comme Karpov, comme Spassky. Moi, le problème que j'ai aujourd'hui encore, ce n'est pas de privilégier les jeunes, c'est de privilégier les adultes, parce qu'ils ne tiennent plus la distance devant des jeunes qui sont formés maintenant depuis 10 ans et qui sont d'un niveau incomparable. J'ai attaqué, j'avais une trentaine d'années, il y avait un voisin à Bastia qui jouait, qui m'avait appris, j'avais joué quelques parties. Puis moi j'ai un long parcours judiciaire, je dirais, puisque j'étais un des représentants, un des principaux dirigeants du FLNC. J'ai été condamné par la Cour de sûreté de l'État à 9 ans de prison. Donc j'ai fait tout le parcours de toutes les prisons parisiennes. Et le premier jour où je suis arrivé à la prison de la Santé, quand j'étais arrêté en 78, je savais que j'étais là pour un bail, le soir, j'entends dans ma cellule, j'entends des bruits, des bruits secs comme ça, qui viennent de l'extérieur. Le lendemain, je demande qu'est-ce que c'est ça. Et je dis oui, ce sont des. J'avais vu qu'il y avait une certaine régularité dans ces cours, mais je me demandais ce que ça pouvait bien être. Et les prisonniers qui étaient là-bas m'ont dit oui, ce sont des espions du KGB qui jouent aux échecs en morse, en s'envoyant des messages morse de cellule à cellule. Et là, j'ai compris que les échecs, ça pouvait être quelque chose qui allait me faire passer le temps.
Léo Battesti doit d'abord aux échecs un moyen de résistance au risque d'engourdissement intellectuel en prison.
J'ai même organisé mon premier tournoi international à la centrale de Melun. Il y avait des prisonniers politiques corses, bretons, des basques, il y avait des anciens collabos qui avaient été arrêtés un peu plus tard. Il y avait beaucoup de gens de KGB. D'ailleurs, c'est ceux qui jouaient le mieux aux échecs. C'est le seul tournoi de la Ligue internationale que j'ai gagné dans ma vie. On n'était quand même qu'une quinzaine à jouer, hein, pas non plus. Et puis je faisais des tournois par correspondance, vous voyez. Si vous envoyez une carte, il y a des cartes vertes de l'association, la GEC, l'association de joueurs par échec par correspondance. Et je jouais comme des personnes, des parties qui duraient même 9 mois, 1 an, hein, parce qu'il fallait attendre les réponses, etc. Et beaucoup de gens ont pris de sympathie, savaient que j'étais en prison, puisqu'il y avait l'adresse. Ils se sont même proposés de m'envoyer des livres, mais bon, l'administration pénitentiaire avait refusé. Lorsque j'ai été libéré, j'ai été amnistié en 81, contre Mitterrand avait été élu. J'ai tenu, alors que bon, j'avais beaucoup d'autres occupations quoi, désormais, et j'ai tenu à finir les parties en cours, ça m'a duré encore pendant 5-6 mois.
Et puis Léo Battesti doit aux échecs sa reconversion professionnelle, après avoir quitté le FLNC.
Quand j'ai quitté le mouvement, j'étais élu, etc. J'avais des responsabilités assez importantes. Je suis parti, malgré le fait que j'ai des diplômes, je suis parti à zéro.
Partir à zéro, c'est ce qui l'avait déjà amené à s'investir dans le nationalisme naissant. C'était l'ouverture du mouvement, le moment des premières prises de position, avec entre autres la réappropriation de l'histoire de l'île, dont Pasquale Paoli allait devenir le symbole.
1515, 732, Charlemagne, Jeanne d'Arc, mais Pascal Paoli, on ne connaissait pas. Moi, je ne savais pas qui était Pascal Paoli. Quand je dis ça aux gens, ils me disent, c'est pas possible. J'ai appris que c'était Pascal Paoli, j'étais quand même pas le dernier de la classe. Hein. J'ai appris quand il y a eu un jour une occupation dans le lycée qui s'appelait Marbeuf, d'un boucher qui a exterminé la rébellion corse, les armées de Louis XV. C'est comme si vous mettez un lycée Himmler à Tel Aviv. Hein.
Pasquale Paoli, il doit être considéré bien plus sérieusement qu'une icône nationaliste. Ce général originaire de la Castaniche, qui a fondé la République corse dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, est l'un des personnages oubliés par l'histoire dont la pensée et l'action ont pourtant contribué aux naissances de la démocratie en Europe.
On était vraiment dans une logique d'aliénation totale. Et c'est sûr que, en dehors de ce 18e siècle où il y a eu cette vivacité politique qui a fait l'allure, qui a émerveillé, y compris les révolutionnaires français, hein, on s'est tourné vers quelque chose qui a été dans la passivité, dans le clientélisme total. Et là, on n'a vraiment pas innové. Il y a eu des générations de soumis. De soumis, il faut bien le dire, jusqu'à ce qu'il y ait le réveil dans les années 60. Parce qu'autrement, c'était de dire, il y avait les Jagob et Rocazer qui dominaient la Corse. De temps en temps, ils me donnaient une place, ils miroitaient quelque chose. Un pays comme la Corse avait les richesses qu'il avait, etc. N'a jamais eu de développement tenant compte de ces réalités. C'est pathétique. Même maintenant, j'en suis encore ému de voir toutes les chances qu'on a loupées. L'époque des Trente Glorieuses, où la France et quelques pays dominaient le monde et pouvaient grassement financer certaines choses, n'ont pas profité de cette possibilité, au moins pour avoir des projets pour cette île, pour aller dans la formation des hommes. Et on a dit non, partez, vous n'avez plus rien à faire.
Pour l'immense joueur d'échecs austro-hongrois du début du siècle dernier, Xavier Tartakover, la tactique, c'est ce que vous faites quand il y a quelque chose à faire. La stratégie, c'est ce que vous faites quand il n'y a rien à faire.
Déjà, j'ai senti une injustice, une grande injustice, et je me suis de plus en plus intéressé aux choses. Et ça tombait bien, puisque je suis parti, puisqu'à l'époque, nous n'avions pas d'université, elle avait été fermée quand on avait perdu militairement 1769 contre la France. On a perdu donc notre université, et on s'est battu d'ailleurs à ce moment-là pour la réouverture, à part nous, étudiants qui nous battions, et le mouvement autonomiste des frères Simeon, et quelques intellectuels. Il n'y avait personne, aucune force politique en Corse. Mais l'université, c'était un sujet, on ne voulait même pas entendre parler. À juste titre, on savait que si on mettait des jeunes au cœur de l'île, ça allait contester le système clientéliste qui était présent à l'époque. C'était une colonie, hein. On pouvait faire ce qu'on voulait. Il n'y avait pas de... Les gens qui étaient en place, de manière, étaient redevables. Donc il n'y avait pas de contre-pouvoir. Il s'est constitué petit à petit.
Monsieur Steinitz. C'était écrit un millionnaire en s'adressant à Wilhelm Steinitz, premier champion du monde officiel des échecs au XIXe siècle. « Vous ne participez au tournoi que pour l'argent, alors que moi, je n'y viens que pour l'honneur. » Réponse du père des échecs modernes, « Chacun joue pour ce qu'il n'a pas. »
Aller, il y a été un tournant. Ça a été un tournant puisque la Corse a basculé. Et vous comprenez, vous êtes dans une cave, vous avez des armes, il y a un affrontement, vous avez un blessé, il y a deux morts de l'autre côté. Quand on a 22 ans, on se retrouve devant des centaines de militaires, et puis on assiste à ce qu'on a assisté, c'est traumatisant. Donc à Lire, ça a été, oui, un moment important, malheureux, mais important.
À Lire, encore à Lire, il est l'événement déclencheur. On y est alors rentré dans le milieu de la partie, celle des attaques franches. Ce sera ma prochaine destination. Nous passerons par là avant de rejoindre mon village, dans les montagnes du sud de la Corse.
J'étais engagé à fond dans le combat politique. J'ai eu des responsabilités successives dans la plupart des organisations nationalistes dites radicales, de toutes les expressions publiques. Donc j'ai fait partie d'un combat très dur contre le système, hein, où certes on donnait des coups, mais on en recevait pas mal, puisqu'on était souvent ou arrêtés ou emprisonnés encore. J'ai même été emprisonné pour apologie de crime, c'est dire. On était les premiers avec un autre responsable nationaliste en France avoir bénéficié de ce traitement pour d'un délit d'opinion. Hein. Et on a toujours été dans un combat très dur, et les échecs, c'était quelque chose, de temps en temps, que je regardais un peu l'actualité. Voilà. Mais ce qui m'a surtout préoccupé, puisqu'au-delà des échecs, c'est que ça m'a permis quand même de comprendre beaucoup de choses. C'est d'abord ne pas confondre la stratégie et la tactique, comprendre qu'on a une responsabilité dans ce que l'on fait. Il n'y a pas d'excuse aux échecs. Quand on joue, c'est nous qui jouons. Il n'y a pas l'excuse du vent, du partenaire. On est en face à soi-même. C'est pour ça que c'est une grande école de citoyenneté pour les enfants. Et en même temps, ça m'a appris aussi à sans doute avoir une attitude d'analyse avant l'action qui est fondamentale. Alors, sans doute, en l'occurrence, en l'espèce, nous étions dans des conditions particulières, très radicales, hein, il faut le reconnaître. Grosso modo, il y a eu environ 10 000 attentats en Corse. Il y a eu énormément de victimes directes ou collatérales. Donc, on était dans une forme de guerre, à un autre niveau, hein, puisqu'un petit pays comme la Corse, quand vous avez des dizaines de prisonniers, quand vous avez, à un moment donné, si l'on englobe des personnes qui sont mortes ensuite plus tard, que moi j'avais quitté le mouvement, mais elles sont mortes aussi, les pauvres, et je ne vais pas non plus faire l'impasse sur elles, une quarantaine de personnes qui sont mortes du fait de cette situation politique, c'est quand même pas rien, hein. C'est même quelque chose qui est traumatisant, un traumatisme dont on se remet jamais.
Il n'y a pas de victoire sans perte, disait à son fils le père du grand maître international Anatoli Karpov. Mais si tu pleures, je ne joue plus avec toi.
C'était le sacrifice de pièces. Incontestablement, c'était... Non, je crois qu'il y avait une stratégie qui était un triptyque. Il y avait la lutte de masse, la lutte institutionnelle et la lutte armée. Ce que je crois, hein, aujourd'hui, c'est ce qui nous manque cruellement, c'est au niveau politique, c'est de sortir du XXe siècle et ne plus rester dans des schémas du XXe siècle. Je pense qu'il faut aider à cela, défendre des intérêts collectifs, en étant beaucoup plus citoyen et ne regardant pas uniquement les émissions de télé, Corsi Gazère ou les infos. Il faut agir sur le terrain pour se poser les véritables problèmes et se donner les moyens de la transparence.
Le Reacquist n'a finalement rien de spécifiquement corse. Il est, sur l'île, ce besoin de réappropriation culturelle que l'on a pu observer dans de nombreuses régions ailleurs. D'abord, l'ambition de résister un peu à l'absorption de ce monde qui, depuis la fin des Trente Glorieuses, se globalise. Une ambition rapidement dévorée, elle aussi, par la mondialisation indifférente.
Ça a sans doute stoppé pas mal de choses, mais regardez la Corse, filmez là, allez dans la région de Porto Vecchio, la région de Calvi, on va voir que nous n'avons pas empêché ça. Nous-mêmes, nous l'avons quelque part cautionné, puisque nous étions incapables juridiquement de nous attaquer à des projets spéculatifs. Il y en avait que quelques-uns qui trinquaient, mais l'essentiel, même via des prête-noms, ont pu mener à bien des projets spéculatifs qui ont fait qu'on est devenu une région, peut-être la région au monde, il y a le plus de résidences secondaires, ce qui est déjà très significatif. On était dans une logique qui était à la fois dure, ferme, on était des Khmer Corses, hein, incontestablement, mais en même temps, on était à côté du sujet. Le véritable sujet, ça aurait été d'agir, y compris même, par exemple, par rapport à la langue corse, où nous évacuons la question en disant, de toute manière, il faut le pouvoir politique pour que la langue... C'est pas vrai. Nous avons une forme de pouvoir politique aujourd'hui. La langue corse, elle continue à régresser parce que c'est une affaire de citoyenneté, d'investissement, d'immersion, et donc tout le monde doit participer. Auparavant, quand j'étais jeune, 90% des gens autour de moi parlaient corse. Aujourd'hui, c'est peut-être 10% et encore.
Être corse, bien, un peuple, mais un peuple fait-il une nation ?
Être corse, c'est une notion de communauté de destin. Je veux dire, c'est une définition plus à la Renan de ce que c'est qu'une communauté de destin, une nation, un peuple, appelons comme on veut. Pour moi, font partie du peuple corse ceux qui adhèrent au destin collectif de cette île et qui on partage cette volonté d'exister, quelle que soit la manière dont ils le font. Ce n'est pas une adhésion politique, c'est de dire, voilà, je suis en Corse, voilà, je vis en Corse, j'essaie de développer en Corse. Pour moi, la personne qui, quelle que soit son origine, qui arrive en Corse et qui veut s'intégrer à cette communauté de destin, fait partie de ce peuple corse. Je n'ai pas une vue, c'est une conception du droit du sol et non pas du droit du sang.
En pleine guerre froide, le champion russe Garry Kasparov, parlant du champion américain Robert Fischer, disait « Il essaie de se convaincre lui-même. de pouvoir éviter toute erreur et de ne jamais perdre. Quelle horreur.
Je ne suis pas anti-français. Je ne suis pas pro-système français, hein. Mais je ne suis pas plus anti-français que je ne supporte qu'on soit anti-corse. Pour ne pas avoir en retour quelque chose, il faut aussi se comporter en une certaine logique. Et surtout, je considère que la Corse ne pourra se construire que si on agit concrètement sur le terrain, en se tenant à ça et dans la transparence totale. Je suis pour profiter de tous les bienfaits de la révolution numérique, pas seulement au niveau économique, en faisant en particulier une formation des jeunes dans ce domaine-là, puisque tout va changer. Et si on ne prend pas le train en marche, si on ne prend pas toute la mesure des choses, si on ne prévoit pas, on va une fois de plus se subir. Moi, je ne veux pas que nous subissions. Donc, en Corse, il faut absolument qu'on se responsabilise, qu'on prenne les devants, oui, le coup d'avance, de dire, voilà, il y a cette révolution-là, on s'adapte, parce qu'elle touchera tout, elle ne va pas seulement toucher les smartphones, hein, ça, c'est du pipeau.
Pour le grand maître américain Edward Lasker, les échecs sont un langage international.
Vous savez, il faut regarder les échecs, ça a une autre vertu, ça donne le baromètre géopolitique du monde. Il y a 50 ans, c'était les États-Unis, l'Union soviétique, le choc Fischer-Spassky. Aujourd'hui, les premières puissances, c'est l'Inde et la Chine. Et la Russie qui tient toujours un peu le coup. Faire venir 180 pays en Corse, ça me plairait assez. Un championnat du monde en Corse, sans doute, moi, c'est mon objectif.
Le grand joueur soviétique, Viktor Korchnoï, était clair. Je considère la neutralité comme une maladie grave.
Je suis autodéterminationniste, c'est pas une élection. C'est-à-dire, c'est un peu un comportement citoyen. Je considère que ce n'est pas la fin qui justifie les moyens, mais ce sont les moyens qui déterminent la fin. Ce qui est fondamental à comprendre et à analyser. On est dans une logique où si vous n'agissez pas sur l'environnement, si vous n'agissez pas sur la vie de tous les jours, si vous vous contentez d'avoir des approches institutionnelles ou d'avoir des incantations, vous ne faites pas avancer les choses. Nous les avons fait avancer incontestablement dans la société corse, qui était complètement aliénée, qui était complètement déconnectée des besoins et de la stratégie qu'il fallait mettre. On l'a fait de manière sans doute maladroite, de manière caricaturale par certains aspects, mais on a fait bouger les choses. Lorsqu'on se présentait aux élections, on représentait 5%. Aujourd'hui, c'est 56%. C'est quelque part, ça veut dire qu'il y a eu un énorme développement qui est né aussi de ce combat, avec tous ses travers, mais aussi incontestablement son authenticité.
L'authenticité. N'est-ce pas comme cela que l'on nomme ce que l'on voit disparaître ?
Aujourd'hui, comme hier, le plus important, ce n'est pas d'être autonome, ce n'est pas d'être voire indépendant, si tant est que ça a un sens dans le monde actuel. Hein. C'est pas, moi, je ne vois pas comment on peut parler d'indépendance aujourd'hui avec l'évolution qu'il y a et la révolution qu'il y a numérique dans le monde où il n'y a plus, pratiquement plus de frontières. Mais peu importe, l'esprit, je comprends. C'est-à-dire qu'il faut que la Corse existe parce qu'elle est incontestablement sa culture, sa langue sont au bord du précipice, hein. Même culturellement, en me situant sur un point de vue culturel. Pas une approche de droit du sang. On est les derniers, les Mohicans.
C'était un épisode de Paristrada, un podcast réalisé par Philippe Pujol et Anne-Sophie Lebon et produit par le label Popcast.
Dans le prochain épisode, c'est en descendant la grande plaine orientale que nous allons sur Aléria pour un whisky sans glace.